Je crois que je l'ai fait aussi. Shabbat, shalom, voir, b'shem Hashem, naseh v'natzliach be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui vendredi 24 juillet, le Gimel Av, l'Echem Tovim Shalom, shiur sur la parasha de la semaine et surtout sur la haftara de Chazon Ishayahu, shiur acheté par notre ami Mordechai Yaakov de Genève à Yakar pour les Ilou Nishmat de son oncle, Shlomo Meir ben Eliezer à Kohen Vegitel, sa maman, b'ezrat Hashem, roi Hashem, tenachanu began Aiden Elion, v'chol ha-shorvim imo. Bichlal, Arachamim, Vasilechot, Vechen, Yehir, Atzvon, Venomar, Amen. On souhaitera en même temps une grande Achlama Mira pour tous les malades d'Israël. Bichlala, Moratim, Yakdosha, Vateora, Sarat, Alabat, Efrat, Miriam, Ekara, Kol, Echad, Bahat, Mehem, Bezrat Hashem, Shizku, le Kol, Mille, Demet, Avuchon, Tugesh, Mutad, Bilidai, Bakol, Mikol, Kol, Leilu, Nishmat, Kol, Mette, Israël, Bichlala, Tsipora, Bat. Zenigman, Mishpachat Alevi Ayekar. Fois Shlema pour notre ami Yehuda Ben Eliaou, Sayad. Pour la santé de l'Admeir. Le Kol Mete Israël, Techef Navin. Alors, on commence maintenant le Shiour parce que j'ai peur d'être un peu trop long par la suite. On est dans le Sefer Devarim, cinquième livre des cinq livres de la Torah. Le Sefer Devarim est un peu différent des autres, on l'appelle Mishneh Torah, parce que selon la majeure partie de nos commentateurs, ce livre-là aurait été écrit par Moshe Rabbeinu, Beruach HaKodesh. Le Rabbi a expliqué d'ailleurs à cet insu que pourquoi Hachem, il a donné toute la Torah, mais il a laissé le Sefer Devarim dans les mains de Moshe Rabbeinu pour l'écrire, ceci étant Beruach HaKodesh. Pas Moshe Stam, il s'est mis à écrire comme un écrivain ce qu'il pensait. Mais il a fait une compile extraordinaire des trois livres qui l'ont précédé. C'est-à-dire qu'on retrouve tout le livre de Shemot dans ses commandements, plus ou moins, puisqu'il y a 200 mitzvot dans le livre de Devarim, de livre de Shemot. Donc on reparle de l'épopée, de la sortie d'Égypte, de ce que l'on a fait. Ensuite du don de la Torah, d'où Parashat Vayitranan, où on parle des 10 commandements une fois de plus. Et puis ensuite, on parle du livre de Vaïkra et du livre de Bamidbar, qui sont repris et reconstitués à l'intérieur de ce magnifique livre. Don Yitzhak Abarbanel avait l'habitude d'enseigner... Non, autant pour moi, c'est bien. Au moment que j'ai regardé, pardon, c'est le Sfat Emet. Non, Don Yitzhak Abarbanel, c'est juste en haut. Donc le Sfat Emet avait l'habitude d'enseigner l'importance du livre de Devarim en disant que les quatre livres qui précèdent correspondent aux téphilines de la tête, parce que dans la tête des téphilines, il y a quatre compartiments avec quatre parchemins qui correspondent à Bereshit, Shemot, Vaikra et Bamidbar. Et les téphilines du bras correspondent au Sefer Devarim, c'est-à-dire c'est le monde de l'action. Alors je vous disais que le rabbi de Lubavitch, Sroto Yagen Alenu, expliquait, il disait que pourquoi Béhemet HaKadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il a donné la Torah, mais il a laissé un livre qui passera par contre par le roi HaKodesh. C'est-à-dire que Dieu va utiliser non plus Etzba Elokim, le doigt de Dieu, pour écrire Bereshit, pour écrire Shemot, pour écrire Vaikra et pour écrire Bamidbar, mais il va utiliser Moshe Rabbeinu pour écrire le livre de Devarim qui englobe d'une certaine façon, comme une espèce de synopsis, les trois livres précédents. Pourquoi ? Parce qu'HaKadosh Baruch Hu a voulu montrer aux enfants d'Israël que la parole du Rav est l'équivalent de toute la Torah. C'est-à-dire que si on avait reçu la Torah, qu'est-ce que disent les Karaïtes, par exemple? Qu'est-ce que disent ceux qui ne veulent pas du Talmud, ceux qui ne veulent pas de la Halakha, ceux qui disent ça, c'est les hommes qui l'ont écrit? Alors, dans ce cas-là, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites du livre de Devarim, dit le Rabbi Lubavitch? Parce que ce livre-là a été écrit Beruach HaKodesh, par Moshe Rabbeinu. De là, tu apprendras que la valeur de la parole d'un Rav est l'équivalent de la valeur de la Torah du Sefer Torah. Et que donc, si on sait que le Sefer Torah, s'il manque une seule lettre, là, eux, ils sont d'accord. Ils disent qu'il faut accepter tout ce qui a marqué dans la Torah. Mais la Torah, c'est cinq livres. Et HaKadosh Baruch Hu a fait exprès de laisser dans les mains de Moshe Rabbeinu le cinquième livre, pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Torah Moshe, car celui qui finit une mitzvah prend la mitzvah pour lui. Toute la Torah s'appelle Torah Moshe, parce que Moshe écrit le cinquième livre de Devarim, selon certains commentateurs, en tout cas. Mais la reine, il y a beaucoup à apprendre de cela et de remettre la juste valeur de la parole de nos rabbanim que Tzadik Gozer v'Hachem et Kayem. Voilà une des explications qui est donnée à propos de ce livre extraordinaire que le livre des Devarim, une grande ségoula de le lire tous les Shabbats pour ceux qui veulent vivre des miracles qui ne s'ouvrent pas. Eh bien, il y a une grande ségoula enseignée par le Rav Ishayahu Pinto de lire tous les Shabbats, le livre de Devarim. Ashkim et Shizoché l'Ekar, et c'est vrai que d'une certaine façon, en relisant le livre de Devarim, eh bien, nous abordons Mamash, l'ensemble de la Torah, surtout que le livre de Devarim est un livre de remise en question, de remontrance. Comme vous le savez, Ele à Devarim, non pas Ve-Ele, comme le explique le Rahaim à Kadosh, Ele à Devarim, ce livre-là ne vient pas continuer la suite du livre de Bamidbar, mais justement reprend une nouvelle identité sur l'ensemble des trois livres précédents, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais la Reine, c'est un livre de remontrance. Quand on lit le livre de Devarim, qu'on a l'habitude de lire justement la nuit de Hoshana Rabba, donc vous savez que pendant cette nuit-là, on veille jusqu'à l'aube, et on doit étudier un livre. Le livre qu'on doit étudier avant Chatzot, selon le Harizal, c'est le livre de Devarim. Pourquoi ? Parce que l'on considère que tout celui qui lit tout le livre de Devarim entièrement, c'est comme si qu'il avait lu, d'une certaine façon, toute la Torah. Mais plus que cela encore, toutes les grandes mises en garde sur ce que Dieu attend de chacun de nous se trouvent dans le Sefer Devarim, que ce soit dans la paracha de Kitavo, que ce soit dans la paracha de Nitzavim, paracha de Re'e. Dieu nous tape un peu sur les doigts dans ce livre en nous disant « nous ». Et c'est pas pour rien que ça commence par « Ele Adevarim »,« Mazé Ele Aleph Lamed He »,« Avak Lashon Ara ». Pourquoi est-ce que le livre de Devarim se lit toujours pendant cette période du Khurban Bet Amigdash ? Parce que ça commence par « Ele, voici ». Faites attention, dit Dieu, pas simplement de ne pas dire de la Shonara, mais même de la poussière de la Shonara, de façon allusionnée, ou voulant poser une question, mais en même temps un petit peu accusée, alors que c'était une question. Eh bien, ça s'appelle avec la Shonara, même cela est strictement interdit. Elehad Devarim, Mazé Devarim, Diburim. Voici les paroles que vous avez sorties, d'où le fait que c'est relié à Ishayahu, Chazon Ishaya, c'est-à-dire Ishayahu. Ce qu'a vu Ishayahu, ce prophète d'Israël, le prophète Isaïe, qui est un livre exceptionnel, qui a été très très mal compris d'ailleurs par la chrétienté, si je peux me permettre, qui s'en sert beaucoup pour essayer de justifier leur identité, alors que pas du tout. Il faut bien comprendre ce livre, et non pas en français ou en je ne sais pas quelle langue ils le lisent, mais c'est beaucoup plus profond que ce que cela puisse paraître, et les messages n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont voulu en faire, je vous l'affirme. Mais la reine, de l'autre côté, nous sommes dans le Shabbat Chazon. Chazon, qui veut dire, pourquoi on appelle le Shabbat Chazon ? Chazon, hébreu Chazaya, c'est regarder. Ce que veut cette paracha de Devarim, en nous remettant un petit peu en place, comme l'explique, et je vous conseille vivement, celui qui peut, qui a un bon niveau d'étude, qui fasse le Or HaChaim HaKadosh, sur les explications de Devarim. Là-bas, il explique comment faire des remontrances, quelles sont les conditions pour faire des remontrances, de quelle façon est-ce qu'on les fait, parce que ici, Moshe Rabbeinu fait des remontrances au peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit ? Chazon Ishayahu, à la fin, on a l'haftara de Chazon Ishayahu, c'est-à-dire la vision, ouf, cherchez le mot, c'est le mot, la vision d'Ishayahu, la vision d'Isaïe. Pourquoi on appelle ça Shabbat vision ? Si je devais traduire en hébreu, Shabbat Chazon, qui est le Shabbat le plus dur de l'année juive, le plus difficile, eh bien c'est parce que c'est un Shabbat qui vient quelque part taper sur les mains du peuple. Elle vient nous dire « nous, ça suffit, je vous demande d'arrêter, regardez ». Ça veut dire que nous ne sommes plus simplement dans l'écoute, nous sommes dans « viens voir les résultats de ta vie, viens voir où tu en es, regarde à quoi t'ont mené tes actions ». Et on va lire tout à l'heure, et je demanderai aux non-juifs de ne pas profiter s'il regarde ce cours, de dire « Ah oui, comme une femme non-juive qui a écrit il y a deux jours de cela d'un cours que j'ai fait, oui, c'est pour ça que Dieu devrait prendre les musulmans comme nouveau peuple et ainsi de suite, parce que vous ne voulez pas encore faire la Torah et les mitzvot, alors que c'est l'onachon, les juifs font la Torah et les mitzvot seulement. Après 2000 ans de galoute, on a été un petit peu poussiéré d'une certaine façon par l'assimilation, donc ça reprend du temps. Mais mieux vaut revenir avec son cœur qu'avec des têtes coupées, des mains coupées et des pieds coupés. » Je veux dire par là que ce que veut la Torah, ce n'est pas des coups de bâton pour que tu fasses tes chouvas. C'est sûr qu'avec ce côté dictatural de tu fais pas, je te coupe la tête, tu fais pas, je te coupe les mains, tu fais ça, je te fais ça, c'est sûr que tout le monde peut avancer. Mais Dieu ne veut pas de cette Torah-là. Dieu veut une Torah qui vient du cœur, que tu viennes avec ce que toi, tu veux donner à Dieu comme un homme libre, pas un homme prisonnier, pas un homme qui va prendre sur la tête et qui va faire les choses parce que il n'a pas le choix. Le but de la création de l'homme, c'est le choix. Donc, une kol hakavod. Pour cette dame qui a voulu prendre la place d'Israël, Dieu veut que l'homme agisse avec le choix. Le choix d'y venir, le choix de la conversion, le choix de pratiquer ou le refus de pratiquer. C'est en cela que se trouve toute la valeur du peuple d'Israël, c'est que nous avons un libre arbitre d'un très haut niveau contrairement aux nations du monde. Et quand un juif fait teshuva, eh bien ça a la valeur d'un lingot d'or, contrairement à d'autres qui ont la valeur d'un lingot d'argent ou de bronze. C'est-à-dire que moins on a de libre arbitre, oui. C'est comme l'autre, il dit, ben, je vais ouvrir le coffre-fort et je vais donner tout mon argent. Il dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, parce qu'il a mis un revolver sur ma tempe. Est-ce qu'il avait le choix? Il n'avait pas le choix. Donc il lui a donné. Il lui a donné avec bon cœur ou à contre-cœur. Tandis que la teshuva que nous avons, comme j'ai dit, une femme qui m'a appelé récemment en me disant qu'elle avait beaucoup de mal à vivre le kissouille, que c'était très compliqué pour elle, je lui dis, madame, doucement, mais tout avec la joie de vivre. Parce que si justement, aujourd'hui, nous en sommes où nous en sommes, aussi bien dans le monde laïque que le monde spirituel et religieux, c'est parce qu'on manque de joie, d'effervescence, d'amour. Parce que si on était vraiment plus heureux dans notre façon de pratiquer le judaïsme, il est évident qu'on arriverait à élargir le panel extraordinaire de l'amour du prochain. Velachen, d'un côté, le livre de Ishayahou, en tout cas le premier chapitre de Ishayahou, tape très fortement sur chacun de nous. Et puis, de l'autre côté, eh bien, nous avons l'espoir de rencontrer le troisième Beth Amikdash, mais pour cela, Dieu nous dit, regarde les conséquences. Un des plus grands maîtres de la chassidoute, un des plus grands maîtres du judaïsme, Rabbi Yitzhak de Berditchev, avait un élève qui s'appelait Rabbi Hillel, et il avait l'habitude de dire, Rabbi Yitzhak de Berditchev, l'ema davar domé, à quoi cela ressemble? Et il dit, eh bien, c'est un père qui avait acheté un très très bel habit pour son fils, et le fils ne s'était pas très bien comporté, il a commencé à jouer avec, le père lui a dit, attends, ton vêtement, il coûte cher. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous connaissez le mot, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et des fois, à force de vouloir trop élargir la vision des choses, et puis devenir un peu trop, c'est pas grave, ne pas prendre la vie au sérieux, eh bien, il a déchiqueté son vêtement. Le père a compris qu'un malassot, c'est un enfant. Alors, il lui a recomposé un magnifique et extraordinaire costume de soie splendide dont tout le monde parlait. Et c'était considéré comme le plus beau costume du monde. Et là, le père a mis son fils en garde. Il lui regarde. Je t'ai acheté un très, très, très beau vêtement. Tu l'as déchiqueté. Tu n'as même pas tenu compte. Tu as pris les choses à la légère. Résultat des courses, il est à la poubelle. Le fils a essayé de se maintenir pendant les quelques premiers jours avec ce beau costume. Mais bien entendu, tout de suite après, il a encore plus déliré que le premier. Et il a totalement déchiré au point où il ne pouvait même pas le récupérer en le cousant. Alors, il l'a jeté. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il a décidé lui-même de coudre un troisième vêtement, avec des fils d'or, des fils d'argent, d'une beauté sans pareil, encore beaucoup plus beau que les deux autres costumes qui furent fabriqués par des artisans. Et le fils, il a regardé, il était comme un fou. Et il lui a dit, papa, pourquoi tu ne me le donnes pas? Il lui a dit, regarde, tant que tu n'es pas capable d'observer que les deux vêtements qui t'ont été donnés ont été déchiquetés par tes actes, je ne te le donnerai que quand tu seras capable de comprendre que tes actes ont des conséquences. Velachen, c'est pour cela, il lui a dit. Quand tu auras arrêté, je te donnerai ce vêtement qui a été, lui, par contre, cousu de mes propres mains, lui a dit son père. Comme ça, dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, alav shalom. Il dit, Dieu, il a pris un artisan pour construire le premier temple, le roi David et le roi Salomon. Il les a donnés au peuple d'Israël comme un vêtement pour les protéger, pour les guider. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait trois péchés interdits, idolâtrie, inceste et meurtre, et on a perdu ce vêtement. Alors, Dieu a demandé à un autre artisan, Ordos, à l'époque, roi donc en Israël, roi non-juif, qui a tué tous les Talmidei Chachamim, qui a voulu se racheter avec Baba Ben Bouta, qui lui a dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Il lui a dit, reconstruis le temple. Donc avec Ezra et Nehemia, toute l'histoire. Et puis le temple va être reconstruit. La Gemara nous dit, celui qui n'a pas vu le binyan d'Ordos n'a jamais vu celui qui n'a pas vu le bâtiment de Ordos n'a jamais vu un beau bâtiment de toute sa vie. C'est le deuxième vêtement. Mais malheureusement, à cause du lachonara et de la haine gratuite les uns vis-à-vis des autres, eh bien, le temple a été détruit. Alors le papa, il a dit, alors cette fois, c'est moi qui vais coudre ce vêtement. Et donc comme c'est le père, les fils sont beaucoup plus solides et il est pratiquement indéchirable. Mais le père ne le donne pas aux enfants d'Israël. Il leur dit, il est là, mais je vous le donnerai que quand vous aurez compris, Chazon Ishayahu. Regardez vos actes. Alors c'est pour ça qu'au début, les paroles de Ishayahu sont très dures, des remontrances terribles qui se passent à l'époque donc de Isaïe. Donc on est il y a 2000 ans en arrière, plus que 2000 ans en arrière. Non, il y a à peu près 2000 ans. Oui, il y a plus de 2000 ans en arrière. Donc on est quand même dans une situation de la destruction du temple, la conduite des enfants d'Israël, des comparaisons qui sont humiliantes en ce qui nous concerne. Mais ça finit avec « je vous ai préparé ». C'est-à-dire après nous avoir donné un peu sur la tête, Dieu nous dit « regardez ce que je vous ai préparé, il y a un troisième temple qui doit arriver, il y a un troisième temple dont vous allez construire, vous les murs, et moi j'y placerai l'âme à l'intérieur », marque le Ketra Shitosfot, comment on va descendre le Beth Amikdash, où est-ce qu'on va le construire. Et ainsi donc, Be'ezrat Hashem, ce troisième temple sera là. Par contre, pour l'éternité, ce vêtement qui vient, ce troisième vêtement viendra sur les épaules des enfants d'Israël comme une assurance vie pour l'éternité, en l'honneur du peuple d'Israël, puisque ce vêtement qui a été cousu, ce troisième vêtement, et on pourrait dire grâce à lui, à la limite, tant mieux que les deux autres ont été déchirés, et c'est ce que va dire le fils Gamzol et Tova, en fin de compte. Même du mal est sorti le bien, car je me suis mal comporté pendant les deux premiers temples, mais c'était des artisans qui me l'avaient fait avec des coutures normales, mais par contre, maintenant que mon père, qui est le grand roi, m'a cousu ce vêtement-là, j'ai maintenant un vêtement qui ressemble à celui d'un roi, ce qui fait que le troisième Beth Amikdash fera des enfants d'Israël les rois du monde. Je sais que ça fait très... orgueilleux de dire une chose pareille, mais c'est un état de fait. Le troisième Beth Amikdash feront descendre une vérité sur terre que personne ne pourra nier. Le fait que la Shrina soit à sa place, les Lévi'im, les Kohanim, le monde entier reconnaîtra enfin la véracité de la Torah et la place légitime du peuple d'Israël sur sa terre. Pourquoi ? Eh bien parce que tout sera à sa place. Si le Beth Amikdash retrouve sa place, ça remet automatiquement toute la planète et l'univers à sa place. Qui vivra, verra. On va plonger un petit peu dans cette étude de Chazon Ishayahu. Alors, je vous le dis dès maintenant, ce n'est pas agréable à lire. Ça se passe il y a plus de 2000 ans en arrière. Et le problème qu'on a, c'est que, je dis bien le problème qu'on a, c'est que, comme le dit la Gemara, toute génération où le temple n'est pas construit, c'est considéré comme si cette propre génération n'avait pas réparé les fautes d'avant. C'est-à-dire qu'il y a encore des bribes de ces remontrances au sein du peuple d'Israël. De l'autre côté, il faut remettre un peu les choses à leur place. On a été expulsés, souillés, massacrés, pogrom sur pogrom, la Shoah pour finir, et des guerres non-stop, la guerre des six jours, la guerre de Kippour. Le peuple d'Israël a passé des moments extrêmement difficiles dans son histoire. Et non seulement on s'est nous-mêmes des fois pris pour des ennemis, mais de qui plus est, les nations du monde ne nous ont pas forcément aidés à nous améliorer, si ce n'est que le contraire, sur le domaine historique. Donc c'est un petit peu normal, quelque part, qu'on soit encore poussiéreux, avec un pays si jeune, et pourtant, grâce à Dieu, si extraordinaire, tellement avancé dans beaucoup de domaines, aussi bien moderne que Torah, puisqu'il y a beaucoup de Torah en Israël, grâce à Dieu aussi. Mais il se passe aussi des choses que le prophète va nous apporter. Alors je vais vous les lire en français pour gagner du temps, pas lire en hébreu et traduire, ça prendrait beaucoup de temps. Mais je voudrais vous lire en français ce que dit donc Isaïe, fils de Amos. Le but, une fois de plus, de ce Shabbat, qui est un Shabbat difficile, je rappelle à tout le monde qu'on peut manger de la viande pendant ce Shabbat, il n'y a pas de problème, et boire du vin, puisque Shabbat, il n'y a pas de simané avelout, il n'y a pas de deuil, c'est de voir ce que nous demande l'extraordinaire Haftara, qui nous remet en question dans Isaïe, ce n'est pas d'écouter la Haftara. C'est comme un père qui dit à son fils, viens avec moi, viens. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, depuis tout à l'heure, tu joues avec les arcs et les flèches. Quand tu les lances, tu veux voir où ça va, tu fais n'importe quoi, je te demande d'arrêter, je te demande d'arrêter. Et le fils, ça va, papa, je fais rien de mal. Il lui dit, viens avec moi. Quand il l'a emmené voir de l'autre côté, il a vu plein de corps par terre, des enfants, des hommes, des femmes, avec des flèches dans leur corps. Il leur a dit, mais papa, qui a fait ça? Il lui a dit, tu vois ce que tu as fait? Quand tu lançais de façon aveugle en disant, je fais ce que je veux, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, je vis ma vie, tu vis la tienne, lâche-moi les baskets. Tu vois, quand tu prenais tes flèches et que tu les lançais au-delà de l'horizon, elles ont tué des personnes. Ces personnes, ce sont des gens de ma famille. Ça veut dire que chaque fois que l'assimilation nous frappe, le fait de dire, je fais ce que je veux, comme deux chanteurs de rap ici en Israël, Hashem Ishmor, que Dieu le mamash, Yerzer Otam B'Tshuva, ce sont les leaders de la jeunesse israélienne, Hashem Ishmor, cette haine du judaïsme qu'ils ont, cette haine, ils sont dans tous les réseaux sociaux, c'est pas les dévoiler, ils sont déjà dévoilés. Je ne veux même pas donner leur nom, pas c'est-à-dire ma bouche, jusqu'à ce qu'ils fassent teshuva. Mais quand tu vois que la jeunesse, mon fils hier m'a dit, mais la jeunesse, on m'en fait des dieux. Quelle haine, comment ils insultent. Il y en a un qui appelle Moshe Rabbeinu le bègue. Il se moque toute la journée. Dans les visions, il se moque. C'est des flèches qu'on lance. On ne sait pas où elles vont à travers les écrans. Mais elles tuent des âmes. Elles tuent des gens qui disent, ouais, ils ont raison. On voit les commentaires. Shem Ishmor Virachem. La reine, on vient te dire, ok, c'est ce que tu as voulu. Regarde le résultat. Hier, je parlais avec une personne au téléphone. Et elle me dit, les temps ont bien changé. Je lui dis, oh que oui. C'était impensable de savoir qu'on pouvait aujourd'hui avoir un tel modernisme, que les appareils photos se trouveraient à l'intérieur d'un petit portable, que Internet se retrouverait à l'intérieur, qu'on pourrait avoir des mails, que les fax disparaîtraient bichlal du système commercial. Qui aurait pensé à une chose pareille? Qui? De l'autre côté, on n'a jamais eu autant de malades, autant de divorces, autant de débauches sexuelles, on n'a jamais eu autant de catastrophes qu'aujourd'hui. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je vous le dis, jamais. On n'a jamais connu une telle descente aux enfers, à un tel point que le Harizal nous avait prévenu en disant « Toutes les déchéances morales de toutes les générations seront regroupées dans la dernière génération. Donc, si je fais un rama sage de tout ce qui a eu lieu pendant les 5000 et quelques années de l'humanité, le Harizal dit « Elles se retrouveront tous réincarnées à la fin des temps. » Donc aujourd'hui, nous sommes dans une boule noire de débauche et en même temps, bizarrement, dans une boule, un magma de feu de Torah au centre. Il y en aura un jour où il y aura une explosion, où la lumière du centre explosera cette masse noire qui ternit notre image. Alors je vous lis maintenant ce que dit le prophète. Donc c'est du français, donc je m'excuse, mais ce n'est pas la même chose qu'en hébreu, mais là on va traduire pour juste retenir l'idée et un peu expliquer. Donc oracle, prophétie ou plutôt vision de Isaïe, fils d'Amos. C'est-à-dire qui prophétisa à l'époque donc sur Juda et sur Jérusalem au temps de Ouzia et de Yotam, d'Acha, c'est horrible à lire en français, et de Ézéchia, roi de Juda. Ok. Voilà ce qu'il dit. Écoutez cieux et terre. Donc il demande à deux témoins de l'humanité, le ciel et la terre, de prêter l'oreille. Car l'Éternel qui parle, j'ai élevé les enfants, en parlant du peuple d'Israël qu'il a fait sortir du pays d'Égypte, et je les ai vus grandir en leur donnant la Torah, les mitzvot et la terre du pays d'Eretz Israël. J'explique en même temps les commentaires pour ceux qui veulent gagner du temps. Et eux se sont injurés contre moi, insurgés contre moi, ils se sont rebellés contre moi. Et d'un coup il dit quelque chose de bizarre. Un bœuf connaît son possesseur, un âne la crèche de son maître, et Israël ne connaîtrait-il pas? Donc, et comme ça il dit, et Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas de discernement. Voilà, très bizarre. Pourquoi il parle du bœuf et pourquoi il parle de l'âne? Parce qu'effectivement, dans le Talmud de Yerushalayim, sans perdre de temps pour vous expliquer, un jour, un rave a vendu son bœuf à un Ishmaéli, un non-juif. Et donc, ou un romain, je ne me rappelle plus, peu importe, c'était pas un juif. Et donc il lui a vendu son bœuf. Il a regardé le bœuf, il a vu que Bémet c'est un animal solide, il a bien observé. Et puis il a commencé à traire avec lui le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le Shabbat. Mais bizarrement, quand est venu le Shabbat, cette vache, ce bœuf, peu importe, ce taureau, appelez ça comme vous voulez, a refusé de labourer la terre. Alors qu'est-ce qu'a fait le propriétaire? Il a sauvagement frappé pour qu'elle avance. Et l'animal a refusé d'avancer. Qu'est-ce qu'a fait le goy? Il est parti voir l'ex-propriétaire, l'ancien propriétaire de la vache. Et il lui a dit, n'est-il pas marqué chez vous, Mikartaou, tu m'as vendu un animal qui en réalité ne pouvait travailler que quelques jours, car maintenant il ne peut plus travailler. Le rave a répondu, c'est impossible. Un d'avoir casé. Je t'ai vendu un animal à bonne et due forme. Ah, quand est-ce que tu l'as voulu faire travailler? Il lui a dit, samedi. Il lui a dit, samedi? Ah oui, non, excuse-moi, elle ne travaille pas le samedi. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que fait le rave? Il vient chuchoter dans l'oreille de la vache quelques mots. Et d'un coup, de façon surprenante, ça s'est passé pendant le Shabbat, l'animal s'est mis à avancer et continuer de traire pendant le Shabbat. Le gars, quand il a vu ça, il a dit, attends, mais qu'est-ce que tu lui as dit dans l'oreille? Je lui ai dit que Avant, il était ma propriété, donc, comme je suis juif et je dois être Shomer Shabbat, tout ce que je possède doit être aussi Shomer Shabbat. Ma boutique, mon animal, peu importe, tout le monde doit être Shomer Shabbat, puisque c'est à moi. Ata, Ovincha, Ovintecha, tout ce que tu possèdes. Donc, je lui ai dit que maintenant, j'avais vendu à un goy et qu'il n'avait plus à respecter le Shabbat. C'est pour ça qu'il est en train d'avancer. Le goy, quand il a entendu ça, il a dit « Quoi ? T'es en train de me dire que c'est impossible. Quoi, ton animal était Shomer Shabbat ?» Et il lui a dit « C'est l'influence que nous donnons. Quand on fait la Torah et les mitzvot dans la joie, on influence même sur le domaine animalier. » Il lui a dit « Écoute, si un animal il est capable de comprendre la valeur de Shabbat, je veux devenir juif. » Cet homme, goy, s'est converti au judaïsme et est devenu un des plus grands amoraïs de l'histoire puisqu'il s'appellera Rabbi Yochanan bar Torta. Rabbi Yochanan, fils de la vache. Torta en araméen, c'est la vache, le taureau. Zéperouché d'abord. Et c'est ce qu'il dit. Un bœuf, il sait revenir là où il est. Un bœuf, il comprend quand il voit des choses, la valeur de Shabbat, la valeur de mitzvot. Et vous, vous venez pas. Il parle de l'âne. L'âne, c'est reconnaître la crèche dans laquelle son maître l'avait installé. De quel âne parle-t-il ? Il y a beaucoup d'exemples dans la Torah, mais qu'on va prendre. L'as de Rabbi Pinchas ben Yair, qui refusait de manger la paille si on n'avait pas prélevé le maaser. Mais la reine, un jour, il a vendu son âne. Et on lui a dit, mais il ne veut pas manger. Il lui a dit, non, mais attendez, vous avez prélevé le maaser ? Il lui dit quoi ? On doit prélever le maaser pour un animal ? Il lui a dit, le mien, oui, il n'est pas comme les autres ânes. Et c'est ce que nous dit maintenant le prophète. On comprend à l'avance ces mots. Le bœuf connaît son possesseur, un âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît pas son maître. Mon peuple n'a pas donc de discernement. Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, je ne supporte pas le français, c'est horrible, j'ai l'impression d'être dans une église, mais en hébreu ce n'est pas du tout la même chose, je vous l'affirme. Race de rebelles, en d'autres termes, enfants dégénérés, les mots sont très très durs. Pourquoi dégénérés ? Qu'est-ce que ça veut dire être dégénéré ? C'est être fou. Ça veut dire vous ne comprenez pas la valeur de la Torah, vous ne voulez pas revenir. Ils ont abandonné Hachem, vous avez abandonné votre Dieu, donc on parle il y a plus de 2000 ans en arrière, outragé le Saint d'Israël, vous avez sali donc la terre d'Israël, reculé loin de lui, où faudra-t-il vous frapper encore ? Combien d'épreuves je vous envoyais, combien de pogroms je vous envoyais, combien je vous donnais sur la tête. Vous savez que je ne vous remplacerai jamais, dit Dieu, par amour pour vous. Vous qui persistez dans la rébellion, toujours à me critiquer. Déjà, toute tête est malade, tout cœur est endolori. Je vous ai frappé sur tous vos membres pour vous ramener vers le droit chemin. De la plante des pieds jusqu'à la tête, plus rien d'intact, il n'y a plus rien. Ce n'est que blessures, meurtrissures, plaies purulentes, qui ne sont ni nettoyés, ni pansés, ni adoucis par l'huile. Votre pays est une solitude. Vos villes, donc c'était à l'époque, sont consumées par le feu. Les nations du monde vous possèdent. Votre sol, sous vos yeux, que vous voyez, des étrangers le dévorent. C'est une ruine, comme un bouleversement dû à des barbares. Et, d'un coup, il nous dit, juste un instant, elle est restée, la fille de Tzion, comme une cabane dans un vignoble, comme une hutte dans une mélonnière, pareille à une ville assiégée. Donc voilà, il continue ici et il dit des phrases qui sont très dures. Je voudrais vous en lire une pour ne pas être trop long. Et il dit, regardez bien, écoutez bien les mots qui sont donnés ici, vous verrez un rapport avec ce que l'on vit aujourd'hui. Un faible débris, nous étions, comme Sodome, notre rébellion, comme Gomorre. Et là, nous avons ici, à la veille de ce Shabbat, des mots qui sont très importants. Il dit, le problème qu'il y a, c'est que vous avez oublié que j'ai détruit la ville de Sodome et Gomorre. Et que s'il y a une chose au monde, dit Dieu, que je déteste plus que tout, c'est la débauche. La pornographie, les trucs sales, c'est la chose que Dieu déteste le plus. Dieu, comme dit le Harizal, David Twitou, est patient pour toutes les fautes, mais les fautes du sexe, il n'a pas de patience. Et là, il nous dit, nous étions comme Sodome, nous nous comportions avec l'orgueil de ce qu'on appelle Mitzad Agava aujourd'hui, ce qu'on appelle le défilé d'homosexuels, la marche de l'orgueil en français, et comme Gomorre, des gens au cœur de pierre, toujours dans la rébellion. Magistrats de Sodome, soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorre, qu'importe la multitude de vos sacrifices, je suis saturé, dit Hachem. J'en ai marre. Et là, les mots sont encore plus durs. Écoutez bien. Dieu nous dit, vos sacrifices que vous menez, les taureaux, les agneaux, les boucs, je n'en veux point. Si vous m'apportez des sacrifices au Beth Amikdash, explique le prophète Isaïe au nom de Dieu au peuple d'Israël, pour continuer votre débauche en dehors du Beth Amikdash, si vous avez pris en d'autres termes la Torah pour une religion où c'est simplement dans le temple que je suis tzadik et racha à l'extérieur, je n'en veux point. Vous qui venez présenter, vous présenter devant moi, qui vous a demandé, c'est écrit en tout petit, donc j'ai du mal à lire, foulez mes parvis, cessez d'y apporter l'oblation hypocrite. Dieu déteste l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Pourquoi tes mains sont-ils pleines de sang? Allusion à la masturbation et le sang de la semence jetée en vain. Votre encens m'est en horreur. Néomini, il dit ici. Vos shabbats, vos yamim tovim, je ne puis les souffrir. C'est l'équité associée aux fêtes. Au lieu de vous réunir pour donner de la joie à toute la famille, pour chanter, il explique ici dans Chazon Yeshaya, je vous ai dit que c'est une haftara très dure. Il dit aujourd'hui, les points de rencontre, des disputes, des insultes, des bagarres, vous attendez le Shabbat pour les faire. Vous croyez que c'est ça le Shabbat que je vous ai donné? Vous croyez que c'est ça les fêtes que je vous ai données? Ah non, dites pas celui-là, fais pas comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, j'ai pas envie de recevoir, ta belle-mère c'est une sorcière, toi c'est une princesse, toi c'est une prostituée, toi t'es une comme ça. Il dit, j'en ai marre, il dit Hachem, j'en ai marre de vos fêtes. Je vous ai donné des fêtes pour vous réunir. Pour que vous soyez calme. Non, toujours des réflexions. Toujours, toi, t'es pas bien. Toujours des jugements. Toujours des sales mots. Pourquoi vous en êtes arrivé à donner des compliments à ceux qui vous haïssent, des nations du monde, et à vous critiquer vous-même entre frères et sœurs? Pourquoi en êtes-vous descendu si bas? Et Dieu nous dit, regarde les résultats de ta vie. Regarde. Observe. Observe ce que sont devenues tes fêtes. Observe ce qu'est devenu ton étude. Observe, regarde les résultats de ta vie. Regarde qui tu es devenu aujourd'hui. Parce que si tu veux améliorer l'avenir et que tu n'es pas capable de voir la réalité, alors tu perds ton avenir. Tu ne vivras que dans l'attente de la Géoula et la prescription du Melech HaMashiach parmi nous. Zeperu Shadavar, si tu n'es pas capable de voir la réalité et que tu vis dans le déni, il n'y a pas de raison pour que cela s'arrange. Parce que Dieu dit, j'ai laissé aucun endroit, je vous ai frappé partout. Jusqu'à quand vous allez rester dans cette situation? Belachen, Bezrat Hashem. Tout de suite après, Akadosh Baruch Hu nous parle du Beth Amikdash. Il nous parle du salaire qui nous attend. Bezrat Hashem, quand vous étendez les mains, je détourne donc ici le regard des yeux. Vous dites, Poter et Yadecha, vous voulez que je vous donne. Mais vous avez vu vos mains, si elles sont propres de vol, si elles sont propres de Zera Levatala. Je reste sourd, vos mains sont pleines de sang, il dit. Lavez-vous, purifiez-vous, die. Tu ne peux pas être avec une kippa et parler mal avec ta bouche, tu ne peux pas dire des insultes, tu ne peux pas t'énerver, tout celui qui se met en colère, c'est comme si tu fais la Baudazara, die. Dieu, il dit, j'en ai marre de votre hypocrisie. Ça, c'était ce qui a provoqué la perte du temple. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'il dit, où il y a des comparaisons en disant, vous êtes le symbole de Sodome et Gomorre, de continuer de ce que vous faites, die, dit Hachem. Vous n'avez pas compris que c'est moi qui aurai le dernier mot? Vous n'avez pas compris que de toute façon, vous avez intérêt à faire teshuva pour vous, pas pour moi. Dieu, il existait, il existera toujours. Die de vous critiquer. Où est le respect des uns et des autres? Où est le respect des parents? Combien on se doit de respecter? Et ce livre-là, donc de l'Haftara de Devarim, se lit toujours Shabbat, Chazon, toujours. Le livre de Devarim tombe toujours avant Tisha B'Av, parce que c'est le moment où, malheureusement, le deuil s'installe. La Midat Hadin sort très fortement, parce qu'à partir de Motsé Shabbat jusqu'à Tisha B'Av, ce sont des jours de dinim absolu. Il faut faire très attention. Celui qui a une opération, s'il peut la repousser, s'il peut, j'ai bien dit s'il peut, qu'il la repousse. Si vous avez un procès avec des non-juifs, tu peux le repousser, repousse-le. C'est une période où les anges accusateurs sortent et voient de leurs yeux, ou plutôt font voir à Dieu de leurs yeux, où est-ce qu'en est le peuple d'Israël? Au niveau de l'amour des uns et des autres, de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, mais on a vu ici. Dieu, il nous dit, je ne veux plus de vos sacrifices, j'en ai marre de vos Shabbats et j'en ai marre de vos Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la fête en lui-même, c'est lui qui nous a donné ces fêtes, mais c'est ce qu'on en a fait. C'est devenu des points de rencontre, de disputes, de jugements, d'insultes, de discordes. Chacun fait la tête à l'autre. On ne sait même plus où on va. Est-ce que la viande qu'on a achetée est vraiment cachère ou pas cachère comme il le faudrait? Die, dit Hachem, die. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? 2000 ans, ça vous a à ce point-là abruti, à ce point-là assimilé. à ce point-là, jusqu'à en retirer le sourire sur vos lèvres. La reine Bezrat Hashem. En ce Shabbat, quand on va dire le livre de Devarim, Vechazon Ishayahu, on doit avoir deux choses dans la tête. La première, c'est mince, on n'a toujours pas reconstruit le temple, c'est qu'on perpétue un petit peu cette déchéance morale. Et de l'autre côté, Baruch Hashem, car chaque jour nous apporte encore plus proche, nous rapporte encore plus proche du troisième Beth Amikdash. Nous avons le droit de retrouver, donc explique Ishayahu pour finir, Isaïe, le sourire, à la condition où tu as compris pourquoi maintenant tu peux sourire, parce que tu as pleuré les dégâts occasionnés préalables. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Mais une fois qu'on aura ri, on ne perdra plus jamais ce sourire. Shinizke Kulanu, le Shabbat Shalom Vorach. On a fait une partie de ce shiur basé donc sur la préface des préventions, des remontrances de ce que chacun de nous devons faire. Et bien entendu, je n'ai pas lu ça pour vous, j'ai ça d'abord pour moi, parce que je suis loin, loin, loin d'être parfait. Un match très très loin. Moi aussi je dois me remettre en question, moi aussi je dois m'améliorer, moi aussi je dois avoir plus de joie dans l'accomplissement de la Torah des mitzvot, donner un Shabbat encore plus harmonieux, mais vous aussi. Chacun de nous, Bezrat Hashem, devons, à la veille de ce Shabbat, prendre sur nous, Bezrat Hashem, peut-être de lire le livre de Devarim, comme l'a demandé le Rabbi Shaul Pinto, mais surtout de faire une réunion de famille en disant, vous savez quoi, à partir de ce Shabbat, on va essayer de parler que de Kodesh, pas de jugement de personne, pas de réflexion. Ma fille, si tu es en jupe courte, exceptionnellement, mais un peu plus long, ça me dérange pour le kiddush. Honore ton père. Pas une question de religion. Moi, ça me dérange. J'ai pas besoin de voir les cuisses de ma fille. Parlez entre vous. Parlez entre vous. Pour que Bezrat Hashem, les fêtes redeviennent des fêtes, les Shabbats, des moments de joie et de chant. Et que Bezrat Hashem, nos sacrifices soient empreints de joie et non pas de soupir et de klakt, comme disent certains. J'ai dit à cette femme à propos de son kissouille, madame. Allez doucement, mais fais tout dans la joie. Le tikkun de la fin des temps, c'est d'être capable de garder le sourire comme une lumière dans ce couloir d'obscurité qui nous fait douter à chacun de nos pas. Shinizke, kulanu, lerfua shlema, l'achlama meira, je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Et vous verrez que la semaine d'après, on est dans Shabbat Nachamu, Nachamu Nachami Amim, et Akadosh Baruch Hu, il vient et nous dit, je vais te dire une chose, toutes les réflexions que je t'ai dit, ce n'était pas pour te descendre, c'était pour te rendre encore plus meilleur que ce que tu l'es déjà. C'est le Shabbat qui viendra après. C'est-à-dire qu'on se rendra compte que les réflexions qui ont été faites, en réalité, n'étaient pas vraiment justifiées. C'était dû à un énorme yetzerara, un énorme libre-arbitre, où, comme il dit, vous avez choté, c'est-à-dire fauté par inadvertance. Mais après, à Kajoukou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais pourquoi j'ai été dur avec toi? Parce que tu peux devenir encore plus meilleur que ce que tu pouvais être. Parce que pour moi, en réalité, le peuple d'Israël est toujours le meilleur des peuples. Ce sera le Shabbat d'après. Shabbat Shalom.